Alors c'est d'abord au théâtre Cantor que je vous emmène cette semaine pour vous présenter une pièce, La maladie de la famille M, jouée par la compagnie du Bonheur Vert, les 23 et 24 novembre à 20h30 et le dimanche 25 novembre à 17h. Et pour vous présenter cette pièce, je reçois Marie Valin, créatrice d'images et directrice technique pour ce spectacle, et Antoine Prudhomme, comédien. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va d'abord parler de Fausto Paravidino, parce qu'on va voir que cette figure va revenir tout au long de l'interview, et aussi parce que ce jeune dramaturge contemporain, qui est né en 1976 à Gênes, a signé La maladie de la famille M. Alors, dire rapidement que c'est un véritable homme de théâtre, puisqu'il est à la fois comédien, metteur en scène, traducteur, dramaturge, il s'est même essayé au cinéma, il déborde de ses activités. Et dans sa assez jeune carrière, et pourtant très riche, il signe donc La maladie de la famille M, qui est rentrée d'ailleurs au répertoire de la Comédie française l'année dernière, en 2011, et qui, tous les critiques le disent, a un côté fascinant, et en tout cas le plus abouti dans sa dramaturgie, puisqu'on va du plus intime des personnages jusqu'à la portée la plus universelle. Alors qu'est-ce qui vous a marqué, Marie et Antoine, et vous a intéressé dans le théâtre au sens large de Fausto Paravidino? Est-ce que vous le connaissiez déjà, et comment s'est fait la rencontre avec cet auteur et avec ce texte?
J'ai rencontré Fausto Paravidino et son écriture à l'initiative de Gaëlle Abou, la metteuse en scène, que je connaissais depuis quelques années déjà. J'avais déjà un petit peu travaillé avec elle, et elle m'a recontacté en me disant: j'ai un rôle pour toi dans cette pièce que j'aimerais monter, on va en faire une lecture. Et c'est là la première fois que j'ai rencontré cette écriture. Et ce que j'ai aimé dedans, c'est une écriture... Il fait beaucoup de références à Tchekhov dans la pièce. J'ai l'impression que c'est un petit peu un de ses maîtres, entre guillemets. Et j'ai trouvé que ce qui était plaisant dans cette écriture, c'est que, à contrario de beaucoup d'écritures, entre guillemets, quotidiennes, elle s'était vraiment au plus proche de nous et pas du tout affectée dans le quotidien.
Oui, la sensation que ça pouvait parler à n'importe quel type de public et de manière très différente, en fait. Et ça s'est vérifié lorsqu'on a joué ce spectacle à plusieurs reprises déjà. Et il y a certaines personnes qui vont beaucoup rire pendant la pièce, puis alors d'autres pas du tout. Et c'est assez marrant, en fait, de voir à quel point ces scènes du quotidien affectent tout le monde, tous les publics, toutes les couches sociales, sans distinction, et de manière pourtant assez différente.
Alors tout le monde sera touché de façon différente lors de La maladie de la famille M, qui est l'histoire d'une famille dont les membres sont coincés les uns les autres, les uns contre les autres, les uns avec eux-mêmes, coincés là, endeuillés là, on ne sait pas trop où d'ailleurs, dans une campagne italienne assez indéterminée, endeuillés par la perte de la mère et la maladie évolutive du père, et qui se nouent comme des lacets à leur propre cheville pour s'empêcher d'évoluer et d'avancer. Alors, ces personnages, c'est d'abord le père, Luigi, qui ressasse la mort de sa femme et qui accuse son docteur pour s'empêcher de voir ce qui se passe en lui-même. C'est aussi sa fille, Martha, qui s'occupe des autres pour ne pas s'occuper d'elle-même. C'est aussi son autre fille, Maria, qui s'amourache tantôt de Fulvio, que tu joues, oui. Antoine, tantôt de Fabrizio, peut-être pour n'aimer personne. Et enfin, Gianni, le fils, le jeune frère, qui déstabilise tout ce beau petit monde par son cynisme, son ironie et son franc-parler, ainsi que ses idéaux contestataires. Alors, finalement, on se demande si les personnages de cette pièce, ils ont tout simplement pas mal à vivre, et qu'ils préfèrent s'évader vers le jeu, le mensonge, le souvenir et l'oubli.
Oui, tout à fait. Dans une des premières versions qu'on avait faites de ce dossier, on concluait en quelque sorte en disant que la maladie qui affectait la famille M, c'était la maladie de la vie, tout simplement. Et c'est vrai que c'est ça qui se joue, en fait, dans cette pièce. Et ce qui se joue, c'est la vie en elle-même que nous, on joue au quotidien. Et c'est aussi la vie du théâtre. C'est en fait le théâtre. Et il est très présent sur scène, ce jeu du théâtre, notamment grâce au personnage de Gianni qui est là et qui veut faire jouer les autres à un jeu. On ne sait pas ce que c'est, ce jeu, apparemment lui-même il sait pas ce que c'est ce jeu, mais le jeu est là en tout cas, et la vie est là chez Gianni aussi.
Et d'ailleurs ce personnage de Gianni il est assez particulier parce que si on regarde, on va reparler encore de Fausto Paravidino, mais il a joué plusieurs fois dans sa pièce et jouait notamment ce rôle de Gianni, donc ça montre quand même qu'il y a un relief particulier à ce personnage, il l'a pas choisi pour rien, et surtout c'est un peu lui qui redonne la vie dans cette famille,
qui essaye en tout cas,
oui qui essaye,
mais à travers les jeux, il n'y a pas que Gianni, parce qu'il propose le jeu qui propose une alternative pour essayer de vivre, chacun essaye d'une manière complètement différente tout au long, avec plus ou moins de résultats. Est-ce que Gianni réussit mieux? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est la vraie question que pose la pièce. C'est juste comment vivre, en fait.
Et on voit, enfin, quand on écoute un petit peu, on vous écoute parler, quand on lit aussi des résumés de la pièce, on voit que c'est quand même un texte sombre et des préoccupations très sombres. Et on vous entend aussi, mais on rit beaucoup. Alors, est-ce que c'est pas ça la force aussi du texte de Fausto Paravidino ? C'est son équilibre précaire. On a l'impression de marcher sur un fil entre le désespoir et puis l'espoir qui est toujours là. Parce que j'ai l'impression que tous les personnages essayent de vivre et il y a toujours cette petite chance qu'ils y arrivent. Donc c'est ça la force, c'est que c'est une pièce de l'équilibre.
Bah, sur un premier plan, il y a déjà l'écriture de Fausto Paravidino qui est vraiment comme ça, en fait, qui va chercher dans tous les registres. Il y a des scènes qui parlent au fond, qui au fond pourraient être très graves et qui sont traitées d'une manière plutôt amusante. Mm-hmm. Et à l'inverse, des scènes qui pourraient sembler anodines et seulement plaisantines. Et finalement, parlent beaucoup de ce que les gens refusent de parler eux-mêmes. Il y a l'écriture en elle-même, et puis il y a aussi que Fausto Paravidino est italien et qu'il y a quelque chose dans le rythme de son écriture qui fait que ça va très vite, les répliques se suivent très rapidement, et il y a un rythme très élevé qui fait aussi que l'énergie n'est pas seulement sombre et grave, on a l'impression d'entendre quelque chose de lent et de lourd. C'est pas, même si les choses graves, s'il y a des choses graves qui se jouent, le rythme n'est pas forcément lent pour autant. Il y a quelque chose qui... Ça déménage aussi sur scène, en fait.
Oui, parce que Marie, des choses lourdes, il y en a quand même dans cette pièce. Par exemple, le père qui à la fois a perdu sa femme dans des circonstances un peu compliquées, un peu troubles, incertaines, et qui en même temps est malade. Donc bien plombé, on va dire, ce personnage du père.
Oui, c'est sûr, le personnage présenté comme ça a l'air bien plombé, mais il faut venir sur scène et il faut venir le voir parce que c'est presque le plus drôle, en fait.
D'accord. Donc là encore, contre-pied dont Antoine, tu parlais.
Contre-pied, ouais, voilà, dans la présentation des personnages. En fait, on a cherché aussi dans notre mise en scène à creuser ces personnages qui avaient déjà beaucoup de profondeur, finalement, par l'écriture de Paravidino. Et
alors, comment vous avez travaillé, justement, pour vous démarquer de ça, parce que donc là on parle du texte, on va encore en reparler tout à l'heure, et c'est vrai qu'on parle de la figure de Paravidino qui hante, puisqu'il a été metteur en scène, on en reparlera, il a été comédien, il a écrit cette pièce. Comment on fait pour se démarquer et quel choix on prend? Parce qu'effectivement il a mis en scène à deux reprises son texte, et forcément quand on essaye de travailler un petit peu, on a ces exemples en tête. Alors déjà, est-ce que vous avez fait des recherches? Vous, je parle au sens large, je parle aussi de Gaël Abou et de Paul Biguet, qui l'aide à la mise en scène. Et
Gaël donc, a monté la compagnie du Bonheur Vert autour de Chalon-sur-Saône avec la volonté de faire vivre ce qu'on appelle un théâtre psychologique, qui n'est pas vraiment à la mode en fait, actuellement dans le monde du théâtre, parce qu'elle estime que c'est ce qui apporte le plus aux spectateurs et aux comédiens. Et elle essaye de faire travailler ensemble des amateurs et des professionnels de manière à ce que la pièce qu'ils jouent leur apporte quelque chose à leur vie propre.
D'accord.
Et du coup, moi, ce qui m'a beaucoup séduit dans le début du projet, parce que j'étais vraiment toute neuve quoi, dans le monde du théâtre, c'est le travail de table, en fait. C'est parler de la pièce et puis elle demandait à chacun, et pour toi, à cet endroit-là, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Parce qu'il y a beaucoup d'ellipses dans l'écriture de Paravidino, il y a beaucoup de choses qui sont lancées comme ça, puis bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et en fait, tous ensemble, on s'est construit vraiment tout un univers en fait, autour de cette famille qui est devenue notre univers à nous. Et pour moi, c'est ça qui donne vraiment notre profondeur à la pièce de Paravidino.
Mais paradoxalement, même si tout est déjà dans l'écriture, en fait... beaucoup de choses y sont, et pourtant je pense que le génie en fait est vraiment là, parce que ça reste ouvert. La plupart des la plupart des scènes, la plupart des interprétations qu'on peut faire, on peut toujours revenir dessus et trouver autre chose. C'est vraiment... je pense que j'aurais certainement aimé la mise en scène de Fausto Paravidino, je ne l'ai pas vu non plus.
Pareil,
oui. Mais ce que j'en ai entendu, les extraits que j'en ai vus me séduisent déjà. Et pourtant, je sais qu'il y a des tonnes de choses sur lesquelles on n'était peut-être même pas d'accord. En premier lieu, mon personnage, par exemple.
Oui.
Je sais que j'ai moi-même une histoire avec ce personnage qui est un peu... particulière. Au début, je ne le comprenais absolument pas.
Alors, pour que les auditeurs le comprennent aussi, quelques mots sur ton personnage.
Eh bien, alors.
Qui marche avec Fabrizio.
Alors, Fulvio et Fabrizio, c'est un couple d'amis de longue date. Ils disent même à certains qu'ils sont cousins, à d'autres qu'ils sont beaux-frères.
C'est les meilleurs potes, on va dire.
C'est les meilleurs amis du monde. Et c'est un duo aussi. C'est ce que je disais aussi sur l'écriture, une sorte de duo évidemment comique qui se crée entre deux parce que leur relation est tellement. Fusionnelle et pourtant pleine de non-dits aussi, qu'il y a forcément des... l'envergure à chercher dans toutes plein de directions possibles. Et donc Fulvio, c'est le fils de la buraliste,
ouais.
Et c'est en gros le chef de bande.
D'accord.
Parce qu'il y a Fulvio et Fabrizio qui sont le couple d'amis moteurs, mais il y a plein d'amis autour dont on entend parler, qu'on ne voit pas, mais c'est une bande de potes. Et Fulvio est celui qui mène la bande, qui prend les décisions. Voilà, tout ce dont je parle, c'est un personnage très viril, très dominateur, très... c'est un gars du coin, quoi. Et j'ai eu beaucoup de mal avec pas mal de choses dans le jeu par rapport à ça, parce que c'est pas du tout ce que je suis dans la vie, par exemple. Et en tout cas, j'espère. Et il a fallu creuser vraiment en profondeur pour que je trouve des raisons de m'attacher à lui. Et finalement, ces raisons-là, elles n'étaient pas inscrites dans l'écriture. Mmh. C'était à moi de les nouer. Et c'est en ça que je dis que Fausto Paravidino écrit bien, puisque j'ai eu cette liberté-là, en fait. J'ai pas eu à rentrer dans le rôle, dans le personnage. Je me suis créé mon rôle moi-même. Et je pense d'ailleurs, puisque Gaël Abou, qui a vu la mise en scène de Fausto Paravidino, était très, très...
La mise en scène l'a vue.
Oui, oui. Ouais. D'autres l'ont vu. Simon Bourgade, Elsa Dupuis l'ont vu. Les mises en scène. Ils sont parisiens, c'est plus simple.
Ah bah oui.
Gaël m'a dit que le personnage de Fulvio était traité très très différemment, hein,
ouais.
qu'il en faisait une sorte d'imbécile heureux et que c'était pas du tout ce que nous on en avait fait.
Donc, ça c'était un exemple pour montrer que oui, vous avez pu voir certains d'entre vous en tout cas les mises en scène, mais vous avez pris toute l'attitude pour mener votre barque dans cette nouvelle mise en scène de la famille, la maladie de la famille M, et dans cette. Histoire, il y a un personnage qu'on n'a pas encore évoqué et pourtant qui est très important, c'est celui du médecin, spécialiste en maladies tropicales. Mmh. Et là encore, c'est pas un hasard, il a un rôle important et Fausto Paravidino, ses deux parents étaient médecins de campagne, également donc comme le docteur. Donc là encore, on voit l'ombre de Fausto Paravidino qui revient. Et donc ce médecin, rôle important puisqu'il assume le rôle de narrateur. Alors, il est à la fois impliqué dans l'action, c'est ça qui est ambigu, et en même temps, c'est lui qui, isolé face au public, raconte l'histoire. Alors, c'est un personnage important, mais donc très ambigu, parce qu'il brouille la limite entre réel, fiction, entre spectateur, personnage.
C'est vrai que narrateur, on en a tous une idée très précise, finalement, au début, et puis on se rend compte que celui-là est complètement impliqué dans l'histoire.
Mmh.
Donc... C'est ce qu'il a d'intéressant, en fait. C'est ce qu'il a d'une vraie profondeur. C'est pas simplement l'intermédiaire avec l'histoire. Il vient vraiment nous la raconter parce qu'il l'a vécu. C'est en ça qu'il y a un effet d'Ariel, comme tu dis, et c'est en ça qu'il est intéressant.
Par exemple, au début de la pièce, il arrive et puis il dit à ses patients « Dites-moi ce qui vous afflige, sans pudeur. Pleurez si vous le souhaitez, je vous écouterai, je ne vous interromprai pas. Je ne vous jugerai que si vous le souhaitez, je n'aurai aucune solution à vous proposer. Mais en rentrant chez vous, vous vous sentirez mieux. Et si demain vous vous sentez mal de nouveau, vous saurez où me trouver. » Et pour moi, ça ressemble quand même beaucoup à l'idée de la catharsis.
Oui, c'est ça, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, qu'il y a un côté cathartique profond dans cette pièce, et que finalement, cette famille M, d'ailleurs qui n'est pas caractérisée, c'est un M, une initiale, ça pourrait être la famille X, la famille P, et toutes les familles du monde. Il y a un côté très universel dans cette pièce.
Oui, et si demain vous vous sentez mal de nouveau, retournez au théâtre.
C'est ça. Alors justement, aller au théâtre, on ira pour voir la compagnie du Bonheur Vert. Alors, quelques mots quand même sur cette compagnie et surtout sur ce titre, Le Bonheur Vert. Pourquoi déjà ? Comment ça s'est imposé ? Alors c'est une compagnie qui est née en 2000, donc on a compris autour de Chalon.
C'est ça. Donc c'est Gaëlle Abou, la metteuse en scène de La Maladie de la Famille M, qui en est à l'initiative, qui est créatrice et de la compagnie. Gaëlle, elle, a décidé de fonder la compagnie du Bonheur Vert pour pouvoir travailler avec les personnes qu'elle aimait. Et donc, que ce soit des apprentis comédiens, des comédiens professionnels ou des amis amateurs de théâtre et de jeu. Et c'est ce qui fait aussi que l'esprit de cette famille M est ce qu'il est et ne peut que être différent de la maladie de la famille M faite à la Comédie Française. C'est que la part de chaque personne est tellement, tellement originale. Pour ce qui est du nom de la compagnie du Bonheur Vert, ça vient, je pense, en tout premier lieu de la grande maison qui nous accueille lors des répétitions, qui se trouve en campagne chalonnaise, près de Bissès ou Cruchot, en Saône-et-Loire.
Ça, j'aime bien quand on sait tout dans les interviews.
Et,
l'adresse, peut-être, non
dans le hameau de Meruge, exactement. À peu près
envoyez
7,
vos cartes postales.
7 habitants et plein de gars du coin.
Oui.
Et donc,
plutôt fulvio, les gars du coin.
Ah oui, très fulvio. Oui, et mobilette et tout ça.
Ah oui, oui, attention.
Et donc, compagnie du Bonheur Vert pour ça, parce que c'est d'abord une maison, c'est aussi un lieu, la compagnie du Bonheur Vert, et elle ne saurait être ailleurs.
En tout cas, le Bonheur Vert, il ne peut être nulle part, tu dis. Il sera en tous les cas sur la scène du Théâtre Cantor, les 23 et 24 novembre à 20h30, et le dimanche 25, en matinée, comme on dit, à 17h. Dans une mise en scène donc de Gaëlle Abou, assistée par Paul Biguet, sur une traduction de Caroline Michel, qui a donc traduit la pièce de Fausto Paravidino, citons quand même la traductrice, on a beaucoup parlé du dramaturge, avec sur scène Bertrand Beldant dans le rôle de Luigi, Simon Bourgade dans celui de Gianni, Elsa Dupuis sera Maria, Nadine Galland, Martha, le docteur Cristofolini, dont on parlait tout à l'heure, sera interprété par Pascal Finance, Fabrizio par Romain Ozanon, et donc toi Antoine, tu assumes le rôle de Fulvio. Alors sans oublier Romain Ozanon, mais aussi toi Marie, qui vous êtes chargée de la création d'images et de vidéos, et enfin, à la création d'affiches, Antonin Cani Paroli. Merci.
Merci beaucoup.